C'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une, la tempête Eunice qui traverse toujours l'Europe. Elle a fait 9 morts et sévit encore en Allemagne. En France, des dégâts dans les Hauts-de-France, 28 personnes blessées.
Les autres titres, de plus en plus d'incidents sur le front ukrainien. Le président américain Joe Biden est convaincu que Vladimir Poutine, qui supervise de nouvelles manœuvres aujourd'hui, a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Dans ce journal aussi, l'appel du père de ce policier soupçonné d'avoir tué sa compagne. Ce dernier est en fuite depuis 3 semaines. Et puis nous irons au ski, comme beaucoup d'entre vous ce week-end, mais dans une station suisse qui a renoncé aux remontées mécaniques.
Les invités de la matinale, à 7h50, on parlera de ski précisément, Karine.
Oui, un quintuplé olympique, rien que cela, le biathlète jurassien Quentin Fillon-Maillet sera avec nous tout à l'heure à 7h50.
Et à partir de 8h20, Nicolas Bay, invité du Grand Entretien, désormais numéro 2 du mouvement d'Éric Zemmour, après avoir quitté Marine Le Pen cette semaine.
La tempête Eunice continue de balayer le nord-ouest de l'Europe. Ce sont les côtes allemandes qui sont les plus touchées ce matin. La tempête a fait 9 morts en Europe, dont 4 aux Pays-Bas. On ne compte plus les toitures arrachées, arbres emportés, routes coupées. En France, le vent a soufflé jusqu'à 176 km/h au Cap Grinet. C'est du jamais vu depuis 40 ans. 27 personnes ont été blessées, dont 8 grièvement. À Vimereux, dans le Pas-de-Calais, la partie nord de la ville a été particulièrement touchée. La toiture d'une résidence, par exemple, a failli s'envoler. Reportage Diane Sprimont.
Séverine reste enfermée, elle vit avec son fils au dernier étage, le toit menace de s'envoler.
J'entends fort craquer en fait, on n'est pas rassuré du coup. Ça fait bizarre parce qu'en fait, on s'est enfermé tout de suite, on s'est isolé pour se protéger puis de protéger les enfants.
C'est les voisines d'en face, Catherine et sa fille Lila.
Vous avez un bout de la gouttière de chez vous qui est tombé et il y a des petits morceaux. Et il y a des petits morceaux de votre toiture sur le côté aussi.
Séverine doit bouger sa voiture, un bout de clôture risque de s'abattre dessus. Juste à côté, le jardin de Catherine est dévasté. C'est Lila qui a d'abord entendu des tuiles s'éclater contre leur façade.
Et on commence à entendre des choses craper contre la fenêtre et tout. Et après, on commence à voir la clôture s'envoler et tout. Et après, ça a été encore pire parce que là, presque toute la clôture qui s'en allait et tout.
Véronique, une autre voisine, est venue enlever les gouttières arrachées. Le toit de son garage s'est envolé.
C'était catastrophique. Enfin, je suis originaire de Vimereux, j'ai jamais vu ça. C'est la première année que je vois une tempête comme ça. Ça m'a beaucoup inquiétée. Un peu de la peur, quoi, que tout s'envole et que, bah, qu'il y ait plus de catastrophes et puis qu'il y ait des morts ou on ne sait pas, quoi, tout ce qui peut se passer.
Ces riveraines vont maintenant dégager tous les débris et croiser les doigts pour que le coup de vent de dimanche ne fasse pas d'autres dégâts.
Diane Sprimont de France Bleu Nord, 95 000 clients sont encore privés d'électricité dans les Hauts-de-France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis dès hier que l'état de catastrophe naturelle serait décrété dans les meilleurs délais.
Est-il encore temps d'éviter une guerre en Ukraine ?
Le président américain Joe Biden se dit convaincu que Vladimir Poutine a pris la décision d'envahir ce pays. L'offensive serait lancée dans la semaine, voire dans les jours qui viennent, dit-il. La multiplication des violations du cessez-le-feu dans les régions séparatistes pro-russes vise, selon lui, à créer une fausse justification pour lancer l'attaque. L'OTAN ajoute qu'il y a actuellement la plus grande concentration de troupes militaires depuis la guerre froide. L'Ukraine est prise en étau. À Kiev, Éric Biegala.
Les troupes russes autour de l'Ukraine seraient maintenant autour de 190 000 hommes, 40 000 de plus qu'au début de la semaine. Certaines unités semblent avoir avancé sur des positions beaucoup plus proches de la frontière, des positions qui ressemblent à des bases d'assaut. Au nord, en Biélorussie, des manœuvres se poursuivent avec plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de puissantes batteries de missiles antiaériens qui sont à pied d'œuvre. Au sud, le déploiement de la marine russe autour de la Crimée est impressionnant. Dans le Donbass, les chefs séparatistes ont ordonné l'évacuation de la population civile. Depuis hier soir, une file ininterrompue de véhicules a pris la direction de la Russie. Il semble, côté russe, qu'on n'attende plus qu'un prétexte quelconque. Ce pourrait être l'explosion du principal pipeline transitant par la région séparatiste. Il était en feu hier soir. Ce samedi, Vladimir Poutine a convié son allié biélorusse à assister depuis son bunker opérationnel à Moscou à de nouvelles manœuvres décidées inopinément. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il n'était plus aussi sûr de participer au sommet de Munich aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée, en effet, de quitter le pays ce week-end.
Éric Biégala, pour laisser une chance à la diplomatie, Emmanuel Macron s'entretiendra demain au téléphone avec Vladimir Poutine. Il faut tenter d'éviter le pire, souligne l'Élysée. Vous devez partir à Ottawa, au Canada. La police déloge ainsi les camionneurs protestataires du convoi des libertés qui bloque la ville depuis 3 semaines. Des milliers de policiers sont déployés dans la capitale fédérale. Une centaine de personnes ont déjà été arrêtées. En France, les candidats à la présidentielle se bagarrent pour la 2e place à droite. C'est une Valérie Pécresse pugnace et moins corseté, qui a tenu un meeting devant 2000 personnes hier soir au Canet pour faire oublier son échec du Zénith. Éric Zemmour, lui, va s'afficher au Mont-Saint-Michel aujourd'hui avec sa dernière prise de guerre. Nicolas Bay, venu du Rassemblement National, à qui il a offert le poste de vice-président de son parti. À gauche, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon fait toujours la course en tête dans les sondages. Il se réjouit de l'appui inopiné de Ségolène Royal, qui voit en lui le vote utile. Ces meetings font le plein et quelque chose semble frais. Mire Laurence Perron.
La séquence, lors du grand oral sur France 2 avec le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, a enclenché quelque chose, veulent croire les insoumis.
On vous mettra
Monsieur
pas d'accord.
On se revoit quand vous voulez pour continuer le débat. Pour moi, ce sera
avec beaucoup de plaisir.
Parce que je vous ai lu en long, en large et en travers. Et j'aime bien voir le visage de l'homme que je lis et à qui je compte faire les poches.
Jean-Luc Mélenchon désormais se fait tempérer, regrettant même ses éruptions passées.
Je me suis cru bien inspiré d'aller dire « Je suis le bruit et la fureur » au milieu d'un paquet d'ignorants, jusqu'au point que sur un plateau de télé, quelqu'un a dit, ce type est fou, il est le bruit et le fureur.
Pour autant, pas question d'abandonner les colères du moment.
Est-ce que les mouvements doivent montrer patte blanche et belle carte ?
Et on lui en sait gré lors des meetings.
Il veut vraiment détruire ce système qui est en train de nous miner, de nous tuer tous, abroger cette ségrégation qu'on vit, ce passe vaccinal.
Enfin, à ceux qui, dans son propre camp, doutaient de sa prestation chez Cyril Hanouna.
Du coup, on a suivi ses interviews là-bas, celle d'Éric Zemmour aussi, et on a plus accroché avec Jean-Luc Mélenchon.
La voie est étroite, gagnée en respectabilité tout en étant à l'écoute des radicalités du moment. Un trou de souris dans lequel le pachyderme insoumis espère bien s'introduire.
Explication de Laurence Perron. 3 semaines déjà qu'un policier du Blanc-Mesnil est en fuite.
L'homme soupçonné d'avoir tué sa compagne s'est enfui avec son arme de service. Arnaud Bonnefoy a retiré 1500 euros samedi dernier à Amiens. Dernière trace. Hier, chez nos confrères de BFM TV, son père lui a lancé un appel, Emmanuel Leclerc.
Dans son message, le père d'Arnaud Bonnefoy demande aussi aux personnes qui ont pu aider son fils dans cette fuite de se manifester le plus rapidement possible, laissant donc entendre que le policier âgé de 29 ans a pu bénéficier de complicité, ce qu'aucune source proche de l'enquête n'a pu confirmer à ce jour. Sauf que les enquêteurs cherchent depuis le début, évidemment, des lieux où le meurtrier présumé aurait pu se rendre. Ils sont d'ailleurs allés en premier lieu chez son père, justement, et puis chez un ami du policier, selon nos informations. Ensuite, plus rien, d'où l'appel à témoins lancé la semaine dernière et cet habitant d'Amiens qui appelle samedi dernier pour dire qu'il a aperçu une voiture qui ressemble à celle du suspect. On a planqué en espérant qu'il vienne chercher sa voiture, mais ça n'a rien donné, confie un proche du dossier. En début de semaine, les enquêteurs de la police judiciaire parisienne ont donc récupéré toutes les images de vidéosurveillance pouvant permettre de savoir d'abord depuis combien de temps Arnaud Bonnefoy avait garé sa voiture, de pouvoir comprendre par où il s'est enfui et éventuellement avec qui.
Les vacances d'hiver, toutes les zones sont en vacances ce week-end. Bison futé, voie rouge d'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les deux sens. Soyez patients si vous nous écoutez en ce moment sur la route et je suppose que vous êtes nombreux. Mais pourra-t-on encore skier dans 20-30 ans dans les Alpes? En tout cas sans aller chercher la neige au-dessus de 2000 mètres. En Suisse, certains villages ont fait leur deuil des remontées mécaniques. Illustration au château d'Aix, reportage Jérémy Lanche.
Moi je suis un enfant de la région et puis que tout s'arrête, ça a été vraiment un crève-cœur pour moi et puis pour la région, bien sûr.
C'est un métier un peu particulier qu'exerce Michel Berthollet, directeur de remontée mécanique à l'arrêt. Le travail consiste surtout à vérifier que les installations ne menacent pas la sécurité des habitants de Châteaudet, destination vacances bourrée de charme dans ce qu'on appelle les Préalpes vaudoises, mais destination en manque de touristes.
Une remontée mécanique est la colonne vertébrale d'une station. Si l'on coupe ça, après, tous les autres secteurs vont souffrir, ça c'est certain. La valeur immobilière, les magasins de sport, une patinoire, les hôtels, les restaurants.
La perte d'attractivité touche même des secteurs insoupçonnés, explique l'ancien patron du ski club de Châteaudet, Serge Geta.
Même l'hôpital régional qu'on a chez nous
Finalement, cet hôpital pouvait traiter tous les accidents liés au ski, ce qui ne fait plus. Et il y a une perte aussi d'activité due à la fermeture de ses installations de remontée mécanique.
La question maintenant, c'est que faire du téléphérique désaffecté? Tout démanteler coûterait sans doute des millions d'euros. Un collectif d'habitants espère relancer l'infrastructure, mais à l'année et sans lier son avenir à celui du ski. Sans doute condamné à cette altitude. Depuis les années 60, la limite du 0 degré a grimpé de près de 300 mètres dans les Alpes suisses. À Châteaudet, Jérémy Lange, France Inter.
Et aux Jeux Olympiques d'hiver, Kevin Rolland a fini 6e en ski halfpipe. Pas de médaille donc, mais c'est tout de même un exploit pour le Français qui avait été grièvement blessé il y a 3 ans. Et la météo fait toujours des siennes. Il n'y aura pas d'épreuve parallèle par équipe mixte aujourd'hui. Dernière épreuve de ski alpin à cause de fortes rafales de vent. Elle sera reprogrammée demain matin in extremis, juste avant la cérémonie de clôture.
Christelle Rebière pour ce journal Le Temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski, le vent est moins fort dans la moitié nord du pays ce matin.
Oui, en effet, Jérôme, la tempête Eunice s'éloigne maintenant vers les Pays-Baltes, avec donc une accalmie ce matin de la moitié nord du pays, avant le retour de la pluie cet après-midi, et d'un vent soutenu en seconde partie de journée dans la moitié nord du pays, donc en gros au nord de la Loire, avec des rafales à 100 km à l'heure sur les côtes, 80 dans l'intérieur. Autour de la Méditerranée, le soleil va s'imposer grâce à un mistral et une tramontane turbulent. Entre les deux, les éclaircies seront assez dominantes, sauf près des Pyrénées où l'ambiance sera maussade. Et puis ce matin, le ciel va rester bouché entre le massif central de Jura et le nord des Alpes, avec en début de journée de faibles gelées sur le centre et le Val-de-Loire. Et cet après-midi, une baisse sensible partout des températures maximales par rapport à hier, avec 9 à 12 en général, alors qu'hier on est monté à 21 degrés dans les Bouches-du-Rhône.
Jean-Michel Golinski, Météo France.